Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ça ramène la charrue avant les pneus.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Et merci de passer cette soirée en notre compagnie. Stéphane Guy, Daniel Riolo en direct jusqu'à minuit sur RMC à la radio, direct sur YouTube en vidéo. @after-foot dans cette deuxième heure. Les Jeux Olympiques, la vie de Stéphane dans quelques minutes. Les clubs français doivent libérer leurs joueurs pour les Jeux. 32-16 si vous voulez en débattre. On sera également dans une petite demi-heure avec Yoann Lemaire pour revenir sur la lutte contre les discriminations en Ligue 1, lutte contre le racisme ce week-end, lutte contre l'homophobie. Il nous expliquera les changements par rapport à l'année dernière et notamment la disparition du fameux maillot arc-en-ciel remplacé par des badges. On en parle tout à l'heure et avec vous tous au 32-16. Mais d'abord, l'actu du jour, on a commencé avec cette interview du patron de la DNCG aujourd'hui dans l'équipe. On parlait donc de Jean-Marc Mikeller qui a fait ce ratio masse salariale point récolté dans les compétitions européennes.
C'est masse salariale, c'est oui. Pas budget.
Non, masse salariale, absolument.
C'est ça qui est important, évidemment. Même si les charges, évidemment, on le répète à chaque fois, ne sont pas
plus importantes
les mêmes
chez nous
dans notre pays que dans les autres pays.
Et comme promis, Daniel a donné son avis, la parole te revient, Stéphane, notamment. Je ne sais pas sur ce calcul ou si tu as retenu autre chose d'ailleurs.
Non, mais je pense que ces chiffres globaux sont quand même faussés par le Paris Saint-Germain, qui, en termes de masse salariale point acquis, explose tous les compteurs, évidemment. Mais moi, je suis très sensible à ce critère-là, et c'est pour ça que j'ai longtemps défendu l'idée que le coach le plus performant d'Europe, c'était Arsène Wenger, parce que je pense qu'en termes de euros dépensés, résultats obtenus, c'était sans doute le plus performant, et que c'est finalement le critère essentiel à mes yeux en tous les cas.
Puis après,
c'est ça que je trouve exceptionnel, ouais. Ce que fait Lens, par exemple, depuis 2-3 ans en France.
Et puis je sais pas si vous avez retenu d'autres choses. On peut lire aussi qu'il valide l'accord avec CVC, notamment pour les clubs français dans cette interview.
L'interview est commanditée par le président de la LFP, qui en plus l'envoie répondre aux journalistes amis de la LFP. Et pour ce qui est de cet accord CVC, il ne fait que répéter ce qu'on sait, c'est que effectivement, si à ce moment-là il n'y a pas cette oseille qui rentre, les clubs sont, en tout cas certains, auraient pu être en faillite. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que tout est net dans cet accord. On en a parlé énormément, ça fait plus d'un an qu'on parle de ça dans l'after. J'ai vu aujourd'hui, on l'avait déjà pressenti la semaine dernière, le Sénat a ouvert une enquête, le parquet national financier est dessus. Ça y est, maintenant c'est officiel.
Depuis aujourd'hui.
La semaine dernière, quand on en a parlé, on disait peut-être dans une semaine, ça va arriver, c'est arrivé. Donc là, on a quand même une véritable enquête. Et la grande question, ça va être, est-ce qu'il y a eu des malversations dans cet accord ou des problèmes quelque part
Et puis, est-ce qu'on pouvait vendre les droits du foot français
Absolument.
À vie.
Absolument.
Et bien sûr, vous le savez, dans l'after, vous serez les premiers au courant, les mieux informés.
Qu'on a alerté là-dessus, nous ici. Voir qu'aujourd'hui, ces enquêtes existent réellement. Ça confirme un peu notre travail.
Non, après, ce qu'il explique aussi en creux, enfin pas en creux, là, il le dit clairement, c'est que effectivement l'argent est pas toujours bien utilisé et que lorsqu'on met son interview au regard du formidable numéro que tous les ans l'équipe sort sur les salaires de la Ligue 1, effectivement, quand on voit qu'à Marseille, Correa est l'un des plus gros salaires et qu'il ne joue pas. On se dit qu'effectivement il y a des marges de progression colossales. Puis on peut aussi le prendre pour diversifier les points de vue avec Kurzawa ou qui est-ce qui est au PSG aussi comme ça qui est
principalement Kurzawa, ouais. L'homme qui touche un salaire pharaonique, voilà. Et qui effectivement n'existe plus, ne joue jamais.
Mais par contre du coup
c'est même pas qu'il joue pas, il est même pas plus dans l'équipe, n'existe plus.
Excellente nouvelle puisque l'année prochaine le coût du point européen va baisser puisque avec le départ de Mbappé forcément. Mécaniquement, foot français va pas
passer. Ils sont capables de nous inventer bien des choses pour compenser le départ de Mbappé. Ouais, attention à ce que tu dis.
C'est vrai. Je m'avance un peu, pardon. Une déclaration qui t'a fait réagir, je le sais, Daniel, de Samir Nasri, qui s'est exprimé concernant le ramadan et qui a dit ceci. Pourquoi les entraîneurs devraient savoir si les joueurs font le ramadan? À mon époque, on ne me posait pas la question de savoir tu fais le ramadan ou non. On est dans un pays laïque, normalement la religion doit rester dans la sphère privée. Est-ce que l'entraîneur va voir les catholiques en leur demandant s'ils font le carême? Pourquoi cette question du ramadan ne se posait pas il y a 20 ans? Tu sais que c'est la période du ramadan, tu sais à peu près quels sont les joueurs de ton équipe qui sont musulmans, tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c'est tout. Pourquoi tu vas lui demander s'il fait le ramadan? Parce qu'il fait, s'il fait le ramadan, tu vas le regarder d'un œil différent. Ça ne doit pas exister de demander à ces joueurs de ne pas jeûner.
Moi, j'ai trouvé que c'était très juste comme intervention. Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on disait quand on en a parlé il y a une ou deux semaines. Le mec qui le fait, il doit être libre de le faire. Et l'entraîneur derrière, moi je vais même un petit peu plus loin. Parce que moi je disais, dans les clubs, si on veut adapter pour que les joueurs se sentent à l'aise, aucun problème, c'est une gestion privée dans un club. Moi je trouve qu'au contraire, il faut que tout le monde soit heureux. Et si le mec est heureux, il faut l'aider. Je trouve que l'intervention de Nasri, elle est juste. Et quelque part, elle va pas du tout dans le même sens que l'intervention d'Habib Bey sur le sujet. Habib Bey, qui, tout le monde le sait, hein, est un ami. Néanmoins, on a le droit de pas être d'accord avec des gens qu'on estime beaucoup. J'ai pas du tout compris sa sortie. Mais pas du tout, très en colère, très énervé.
Il y a une chasse d'après match là en conf.
Je sais plus à quel moment c'était, mais je trouve qu'il est parti très vite sur chaque année il y a la polémique, il y a la chasse aux musulmans et tout. Alors que, mais pas du tout, du tout, du tout. Cette année, il y a quasiment eu, justement par rapport aux autres années, zéro polémique, si ce n'est autour
Diawara,
de l'histoire des Bleus.
Le français U19.
On a le lendemain immédiatement corrigé ici dans l'émission. On a dit réellement tout ce qui s'était passé. Tout est rentré dans l'ordre en deux minutes. Il n'y a pas eu le moindre problème. Il n'y a pas eu la moindre polémique, justement, cette année. J'ai trouvé qu'elle était démesurée, la sortie d'Habib Bey. Il n'y a pas du tout eu de chasse aux musulmans. Il n'y a rien eu de ça. En plus, c'est pas son genre, Habib, être comme ça. J'ai trouvé qu'il a un peu sombré dans une victimisation un peu inutile. J'ai pas aimé. Je suis désolé de le dire là, parce que je pourrais très bien lui dire en privé, puisqu'on s'écrit et on peut le faire. J'espère qu'il le prendra pas mal. Mais vraiment, c'est, voilà. Ouais. En tout cas, la sortie de Nasri, très juste sur le sujet, j'ai beaucoup aimé. Non,
mais il remet un peu l'église au milieu du village, je peux dire, sur le sujet. Mais surtout, se poser toujours la question de savoir quand une question survient dans l'espace public, à qui ça profite. Pourquoi effectivement une question qui se posait pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans se pose aujourd'hui et à qui ça a intérêt?
Parce que la société a changé. Non, mais c'est pas une question d'intérêt, Stéphane. C'est juste que la société a changé, que notre société, on le sait, c'est pas le scoop de l'année. Et évolue vers plus de communautarisme et de revendications identitaires. On est sur une sorte de modèle américain maintenant qui pénètre la France et qui fait beaucoup de mal d'ailleurs à notre pays, ce modèle-là.
Mais c'est exactement l'inverse que défend Nasri.
Oui, voilà. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé son intervention. Aussi. Qu'on n'emmerde personne, on n'est pas besoin d'en faire des tonnes là-dessus. Ceux qui peuvent le gérer, qui ont envie de les gérer, le gèrent. Et puis j'imagine qu'il doit y avoir des entraîneurs et des clubs, parce que ça on le dit pas, mais on le sait bien que ça existe. Au début de la saison, quand tu recrutes, tu constitues une équipe, probablement tu dois dire parce que Habib Bey mettait ça en avant. D'ailleurs, il y a un truc qui était gênant dans ce qu'il disait, parce que d'un côté, il faut pas savoir, il faut pas compter, il faut pas discriminer pour savoir si t'en as pas, comment tu vas faire, comment tu vas t'organiser, machin. Et lui, justement, il mettait en avant le nombre. Oui. Il disait moi j'en ai 13, j'en ai 14, donc ceci, cela, ok.
Je crois qu'il disait à Bib qu'il y en avait deux qui faisaient le carême
ou cinq, je crois qu'il dit.
Voilà. Donc si tu fais dans un sens un comptage,
le carême a rien à voir avec le ramadan. Voilà. Faut aussi
tu dois pas faire un comptage dans un sens et pas dans l'autre dans ce cas-là. Qu'un entraîneur avec son staff dise peut-être que s'il y en a 4, 5, 6, 7, 8, il va falloir qu'on s'adapte dans la façon dont on s'entraînera dans cette période-là. Si le club le fait, qu'il le fasse, il y a un problème. Qui va venir leur dire quoi que ce soit? C'est tout. Mais voilà.
Au moins, chacun, en plus, non seulement vit sa religion comme il l'entend, et supporte les effets d'un jeûne ou d'un ramadan, d'un jeûne en l'espèce, mais différemment. Je veux dire, moi, j'ai vu, par exemple, un magnifique match de foot samedi à Alençon. J'ai vu un attaquant formidable marquer 3 buts. et qui extraordinaire, tous plus beaux les uns que les autres, exceptionnels. Et qui était
en période de Ramadan.
Voilà. Ah oui, il y en a qui ça donne même une force un peu mentale supplémentaire. Ouais. Mais
parce que dit Nasri aussi, Benzema n'était jamais aussi fort.
Effectivement, dans ce moment-là. Ouais. Après, j'imagine qu'il y en a physiologiquement, ils doivent pas le supporter. Oui. Dans ce cas-là, l'entraîneur doit faire un choix et qu'on vienne pas dire derrière, oh, tu l'as écarté parce qu'il fait le Ramadan. Ben non, ça c'est stupide. Il faut pas dire ça parce que là, on tombe dans une victimisation. C'est peut-être aussi qu'il y a des corps.
Non, c'est performance. De toute façon, le sport, c'est le seul critère qui vaille, c'est celui-là.
Dans l'actu du jour aujourd'hui, je voulais aussi vous raconter une histoire d'ultimatum, toute ressemblance avec une histoire blablabla serait fortuite. L'agent d'Alfonso Davies, Bayern Munich, a parlé à Bild aujourd'hui pour dénoncer l'ultimatum du Bayern à son joueur. Il est sous contrat jusqu'en 2025, Alfonso Davies, et le Bayern a donné 15 jours à Davies pour se prononcer, prolongation ou pas. Il dit, je cite l'agent aujourd'hui, le Bayern avait dit, nous avons fait une offre très concrète et valorisante à Alfonso. À un moment donné, il faut dire oui ou non. Et donc le Bayern a demandé de répondre sous 15 jours et qu'il n'y aurait pas d'autre offre à la hausse. Réponse donc aujourd'hui. Ce n'est pas juste qu'Alfonso soit maintenant attaqué. Il y a un an, nous étions sur le point de trouver un accord, puis toute la direction a été remplacée. Nous n'avons eu ensuite aucune nouvelle pendant 7 mois, alors que j'ai moi-même essayé de prendre contact avec le club. Maintenant, on nous donne un ultimatum et on nous demande de réagir dans les 2 semaines parce que l'association est sous pression et qu'elle a mis du temps à se restructurer au niveau de la direction. Ce n'est pas juste.
Alors, que ce cas précis puisse poser problème, j'entends l'argument de l'agent qui dit la direction n'était pas la même, donc il nous faut peut-être un petit peu plus de temps. Pourquoi pas ? Le club ira peut-être vers lui en lui disant, on te donne 2 semaines de plus parce qu'effectivement, les hommes avec qui tu avais entamé les discussions ne sont plus là. Mais sur le principe, moi je trouve ça très bien. Et c'est exactement ce que n'a pas fait le PSG, et c'est exactement ce qu'aurait dû faire le PSG avec Mbappé. Quand tu as un joueur important dont tu attends la décision pour une prolongation, ceci, cela, et que tu dois te réorganiser, oui, c'est pour ça que...
C'est pas un peu l'idée du loft cet été, là?
C'est ce qu'a fait le PSG avec Mbappé. Mbappé leur a répondu, je prolonge pas.
Non. C'est avant qu'il fallait le faire. C'est avant qu'il fallait lui mettre l'ultimatum. C'est pas au dernier moment quand t'es dans la dernière saison. Lui, c'est 2025.
Oui.
Donc tu lui dis, dis-nous. Un an avant, dis-nous. Parce que sinon, nous, on doit se réorganiser. Daniel, c'est là que tu dois faire.
La liberté d'Alfonso Davies, ultimatum ou pas de son club, il est sous contrat. Le Bayern a signé ce contrat, doit l'assumer. C'est-à-dire qu'il doit être payé et il doit jouer et être traité comme un autre jusqu'au terme de son contrat, y compris s'il veut pas prolonger.
Évidemment, il pourra faire ça. Mais au moins, on lui aura fait comprendre qu'on attend une décision de sa part. Et que s'il a des offres, parce que c'est toujours la même histoire.
Je pense quand même que Paris a quand même demandé à Mbappé, est-ce que tu vas prolonger ou pas, puisqu'il a envoyé lui-même le courrier un an avant.
Oui, sauf qu'il s'était mis dans la merde en refusant l'offre quand elle existait. Donc là, la différence avec Alfonso Davies, c'est qu'en faisant ça, si jamais il y a une offre au mois de mai ou au mois de juin, ils peuvent aller le voir et dire, Coco, là, elle est là, l'offre. Donc tu vas partir, mon grand. Parce qu'on va devant.
Ouais, mais la liberté d'Alfonso Davies, ce sera de dire, moi, votre offre, je la veux pas.
Exactement.
Je resterai jusqu'à la fin de mon contrat. Terminé.
Il pourra faire ça, mais au moins le club aura agi. Ouais, ouais. Alors que le PSG a fait le contraire. Ils ont dit, on a rien à foutre de l'offre. On la prend pas. C'est là qu'ils avaient fait l'erreur.
Ouais.
Qu'ils ont traîné un an après. Et c'est un an après qu'ils ont voulu faire les cadors, machin, l'offre et compagnie. Le Bayern ne fait pas ça.
On verra. La suite, ça va être intéressant de voir la suite.
Oui, le pouvoir du joueur, c'est. Oui, mais là encore, si Alfonso Davies, à partir du moment où on lui dit, écoute, nous, si tu prolonges pas, on va peut-être prendre un autre arrière-gauche. Ou
bien sûr.
S'il est intelligent, il trouvera une issue, il y aura une offre, il partira, il négociera un salaire dans un autre club. Hein? L'idée, c'est justement d'éviter le bras de fer et la situation dans laquelle le PSG s'est mis du Bayern en refusant la vente.
Alors, juste avant, je conclue sur Alfonso Davies pour dire que c'est, selon certaines sources en Espagne, des contacts concrets auraient déjà été noués avec le Real Madrid pour Alfonso Davies.
Oui, voilà.
Ouais, Stéphane.
Et là, je lis sur l'AFP, là, je crois que ça va être l'AFP.
Qu'est-ce qui se passe à Alençon?
Non, pas seulement, même si ça m'intéresse beaucoup. Je lis que Ulionès dit que Xavi Alonso ne sera probablement pas le prochain entraîneur du Bayern.
Voilà. En ce moment, la presse allemande rêve.
C'est une information forte, puisque effectivement, c'était quand même une.
Rêve de Zidane.
Une des tendances.
Zidane Ribéry.
Absolument.
Le fantasme du Bayern.
On peut en dire un mot.
Le ticket.
C'est également le journal Bild, d'ailleurs, qui a bien bossé aujourd'hui, qui parle d'un ticket un peu surprenant, mais qui en parle aujourd'hui. Zidane Ribéry.
Je vais juste de le dire, là, tu vois, t'as pas entendu?
Ouais, non, parce qu'en fait, là, je vais donner un complément. T'as dit Ribéry dans ton truc?
Bien sûr. Ouais.
Ok. Moi, je... Parce que t'as le casque, c'est trop fort.
Oui, hein, je pense que c'est ça.
T'as pas entendu.
Écoute, j'ai fait une micro sieste. Une petite 23h18, la célèbre. Non, effectivement, les dirigeants du Bayern auraient un œil sur Zizou. Non, mais en fait, j'ai rien de plus à ajouter.
C'est des grands. Non, mais c'est parce
ouais,
que.
Oui, évidemment, c'est... Ribéry qui vit à Munich serait très intéressé.
C'est des grands amis et ils ont le même agent. Donc ça, quand même, ça c'est pas complètement, ça tombe pas du ciel, quoi.
Ouais. Mais du mal à imaginer. Enfin, moi, j'ai du mal à voir Zizou à Munich. Mais...
Ah non. Justement, ça fait partie des clubs bien, comment dire, cadrés. Qui ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît beaucoup. Et bien, attention, la Bavière, c'est une région assez extraordinaire où je suis sûr qu'il se sentira très bien.
Ça change. Oui, ça change de Madrid, quand même. Non,
il y avait quand même.
Ça change de Madrid.
Ça change de Madrid, mais je t'assure que c'est pas comme s'il va à Hambourg ou à Manchester ou puisqu'on sait que le cadre de vie compte beaucoup. Il a bien raison. Il va en famille. Je pense que Munich est une ville, au contraire, qui peut lui aller très très bien.
Il y a quoi à faire à Munich? Plein de choses?
Non, mais c'est bien. Tu connais pas Munich?
Non, je connais pas Munich.
C'est une chouette ville et la Bavière est une très belle région. D'accord. Et Alfonso Davies.
Le Bayern Munich, c'est quand même pas. C'est pas l'US Alençon pour le coup, quoi. C'est un club.
Un peu de respect
quand
pour Alençon.
Tu dois avoir.
Tu manques de respect pour Alençon, Stéphane, ce soir.
Non, mais tu dois quand même avoir. Je sais pas si t'es entraîneur, le Bayern Munich, tu écoutes quand même, un minimum.
Bien sûr. Et puis à un moment, il va falloir quand même qu'ils se remettent à bosser. J'imagine qu'il a envie de bosser. Et nous, on a envie de le revoir sur un banc. Sinon, pendant que tu parlais et que tu ne m'écoutais pas, des gens très importants écoutent l'after. Évidemment, tout le monde le sait. Et on me dit, Alfonso Davies est déjà au Real.
Tiens, une info à donner, apparemment, Alfonso Davies est déjà au Real.
Voilà.
Ok, très bien.
Et comme en général, le Bayern Munich et le Real Madrid se passent plutôt bien entre les deux clubs, si c'est le cas, ça devrait effectivement se terminer par un transfert cet été.
Et deux petites infos pour terminer, parce qu'on parle transfert, sachez que Manchester City va recruter un joueur de 14 ans, selon The Athletic, un joueur qui joue actuellement au Philadelphia Union. Il s'appelle Kavan Sullivan, donc 14 ans. Et il est en train, le joueur, de finaliser les derniers détails pour paraffer son contrat.
Mais c'est quoi comme type de contrat?
Contrat pro, mais il n'arriverait
comme
seulement.
Ça, contrat pro, à 14 ans, t'as pas le droit d'un signe.
Non, mais il arriverait qu'à 18 ans. En fait,
Il va signer la filiale américaine de City, j'imagine.
Ouais, voilà.
Alors, j'ai pas les détails.
Ils vont s'occuper de sa formation.
New York City.
Mais ils vont s'occuper de sa fin de formation.
Voilà. Il devrait rester à Philadelphie jusqu'à ses 18 ans. Hein, en compensation en faveur du club américain. Milieu de terrain, 14 ans. Pépite annoncée du foot mondial.
Une petite pépite à 14 ans, moi je sais pas trop ce que ça veut dire.
Expected
crack. Ça me rappelle celui qui est aujourd'hui capitaine à Arsenal, qui est un joueur excellent, vraiment, mais qui a connu beaucoup, beaucoup de galères parce que c'était une pépite bien trop jeune. Et beaucoup ne s'en remettent pas, lui s'en est remis. Et donc, ce genre d'enflammadaire, plus globalement sur les jeunes, quand tu vois Yamal, ce qu'il fait déjà à son âge, mais en fait, on sait pas de quoi ça présage. En fait. Comment le corps peut supporter ça en démarrant de plus en plus tôt? C'est la même chose pour Warren. Ouais, bon, à partir du moment si physiologiquement mais ils Daniel, sont finis et ils peuvent jouer, qu'ils jouent, mais c'est toujours cracks, des risques énormes.
Les cracks du foot à 14 ans, tous étaient déjà identifiés. Mbappé à 14 ans, tout le monde avait déjà Mbappé à la bouche.
Mais tu sais combien t'en as identifié et qui sont pas devenus forts
bien
après.
Bien sûr.
Et juste très rapidement vous dire que c'est une bonne nouvelle et je voulais la donner. Albert Ellis est rentré chez lui, souvenez-vous, grave traumatisme crânien le 24 février.
Bah, tant mieux
lors d'un match, absolument, il avait été placé dans un coma artificiel. Et bien pour la première fois, il est rentré à son domicile. Selon les informations de France Bleu, Gironde, il commence à retrouver ses moyens. Bien évidemment, pas de diagnostic définitif sur les séquelles. Mais pour l'instant, voilà, ça, tout semble aller mieux pour Albert Ellis. 23h22, petite pause et on se retrouve en direct sur RMC.
Bonsoir,
mais ce soir, c'est pas Jerry et compagnie, vous êtes en train de braquer le coffre.
Ça tombe!
J'ai plus la petite alerte, si le coffre.
Il a perdu sa feuille.
Ouais, j'ai perdu la feuille. Vous avez 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 732-16.
Bah, tu vois, t'as pas besoin de feuille.
C'est vrai. Coffre au 7. Non, mais je suis comme un trapéziste. J'ai besoin de mon filet, même si je tomberai jamais. Coffre par SMS au 732-16.
Et il y a quoi à gagner?
Vous avez 5 minutes, 50 000 euros.
Où?
Ou 6 jours.
Ouais,
ou non, une semaine dans un camping Tikayan. Pour 6 personnes
le nom
en
du
France.
Tikayan. Ah oui,
ça fait une semaine qu'on va l'annoncer tous les soirs. 5 minutes pour jouer. Et je peux même t'ajouter que le vainqueur sera dans l'émission demain soir. Bonne chance à tous dans un
ça
instant.
Ça fait une semaine qu'on peut s'inscrire pour gagner les 50 000.
Absolument. L'after revient avec
Stéphane Guy a été joué, mais il n'a pas gagné.
Ouais.
J'ai l'impression d'avoir ces infos.
J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette émission. Allez, l'avis de Stéphane justement sur les JO dans un instant. Yoann Le Maire avec nous pour cette journée de lutte contre les discriminations, contre l'homophobie, avec beaucoup de changements cette année. Souvenez-vous des polémiques. On en parle avec vous tous au 32-16 si vous le voulez. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'être là sur RMC, Stéphane Guy, Daniel Riolo en direct jusqu'à minuit. C'est l'After en direct vidéo également sur YouTube, la chaîne @after-foot. On voit pas vos messages ce soir derrière nous, on peut les lire sur nos ordi. Tiens, je salue les modérateurs, Nicolas qui est là, qui dit Thibaut is the new Yann Barthès. Effectivement, sans mes fiches, j'étais perdu. On l'a vu. Bienvenue Nicolas.
Ouais, j'avais pas la ref, je l'ai maintenant.
On l'a vu galérer un petit peu.
On s'est confirmé sinon Alphonso Davies au Real.
D'accord.
Pendant la pub. Là.
Donc, ouais. A priori, l'ultimatum ne servira à rien, il ne prolongera pas avec
non,
le Bayern.
Non, mais je répète que je trouve que c'est quelque chose de sérieux et qu'il faut faire. Il faut, le joueur doit défendre ses droits, évidemment. Mais je pense que le club doit montrer son autorité à ce moment-là, pas au dernier moment, quand il faut. Oui.
Là, c'est le scénario parfait. On est à un an de la fin. Le joueur se positionne, le club, voilà, tout le monde est.
Surtout, tu prends personne par surprise si tu lui dis deux mois avant quelle sera la date pour la décision. Il y a l'offre. Ça va se passer comme ça. T'acceptes ou t'acceptes pas? Bon, ok, viens avec ton agent, on va négocier quand même. Allez, vas-y, on discute et tout. Bon, négo terminé. Pour nous, c'est ces conditions-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu restes ou pas? De toute façon, mais j'ai toujours défendu l'idée que on ne forçait pas un joueur à rester. On ne surpayait pas un joueur pour le forcer à rester. Si dans le bureau, je suis président, je dis au joueur, c'est quoi ton intention? Tu veux vraiment t'en aller? Si tu veux t'en aller, ben vas-y mon vieux, c'est bon.
En tout cas, c'est fort, les confirmations en direct, comme ça j'adore. On parle d'un sujet, bam, derrière la confirmation. C'est...
Surtout la fameuse filière germano-canado-espagnole de Daniel.
Oui, la fameuse, je ne sais pas s'il aura beaucoup de tuyaux du coup, mais... Jonathan David part pas au Bayern, non, c'est pas prévu pour l'instant.
Jonathan David, il a du mal parce que l'été dernier, ouais. On pensait, enfin le club était persuadé de le vendre à une belle somme autour de 35-40. Et il y a pas eu d'offre. On a beaucoup parlé bah du y a plus. Pas d'offre ouais. de Mbappé, ouais. mais il y a pas eu d'offre non plus pour Jonathan David.
À suivre, Johan Lemaire qui sera là, le patron de Foot Ensemble qui bosse avec la LFP
juste
dans les.
Juste pas fils de Bruno.
Non, oui. Les luttes contre la discrimination, avec justement ce week-end, ce sera le week-end en Ligue 1 Ligue 2.
Budget.
Contre, on lui demandera, il sera avec nous. Lutte contre le racisme ce week-end, il y aura une autre journée de lutte contre l'homophobie, pas mal de changements par rapport à l'année dernière, et notamment.
Je crois que tout était rassemblé sur la même journée.
Non.
Non, justement, il y a deux
Exactement.
Journées.
Exactement. Il y a une journée lutte contre le racisme et l'antisémitisme ce week-end. Et la dernière journée de Ligue 1, ce sera la lutte contre l'homophobie.
Et Johan Lemaire va vous raconter une histoire qui est très intéressante.
Voilà, ça c'est
au sujet de la lutte contre l'homophobie. Tenez-vous bien, c'est assez étonnant comme histoire.
Ce sera dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, ça a été le sujet du jour dans tous les clubs. Tous les coachs aujourd'hui en conférence de presse y ont eu droit. Est-ce que vous allez libérer vos joueurs pour les JO cet été? Hier, Florian Maurice a clairement fait comprendre qu'il lâcherait probablement pas tous, en tout cas, ces joueurs susceptibles d'en être. Aujourd'hui, le RC Lens, l'OL et le LOSC, par l'intermédiaire de Paulo Fonseca, ont annoncé qu'ils seraient favorables à la libération de certains joueurs. Et ce qui devrait faire plaisir à Stéphane, puisque c'est le thème de son avis ce soir.
Il y a deux soucis dans la vie, c'est la surconfiance et la sous-confiance. Est-ce que Daniel a un des deux problèmes d'après toi, Thibaut?
Possible.
Il y en a un qui l'a pas, je crois. Il y en a un des deux qui l'a pas.
Ouais, c'est vrai, Daniel. Tu manques un peu de confiance.
Des domaines,
tu manques de confiance en toi, Daniel.
Ça dépend des domaines de la vie.
Ah, n'hésite vrai, pas, n'hésite
vrai.
Pas à t'assurer.
C'est vrai aussi.
Il y a des domaines où on.
Quel domaine, par exemple?
C'est-à-dire?
Dans quel domaine tu serais en sous-confiance dans la vie?
En sous-confiance?
Ouais.
Bah, au tennis.
Ouais.
Au poker.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on écoute le RMC Sport Show, c'est pas le même Daniel. Il y a moins de certitude.
Je salue la mémoire d'un ami, malheureusement trop vite parti, Jacques Revoisier, qui était à la fois entraîneur de football et docteur en psychologie. Et qui avait mis au point des tests auprès des jeunes joueurs, notamment. Et ces services étaient utilisés par beaucoup de clubs pour tester les jeunes. Et c'est lui qui m'a expliqué justement que dans ces fameux tests, ils essayaient de voir les. C'était à la fois un problème pour un jeune joueur, un potentiel joueur professionnel futur d'être en sous-confiance ou en sur-confiance.
Je crois que
ça posait des problèmes différents évidemment, mais des problèmes dans les deux cas.
Je ne sais pas s'ils n'ont pas détecté la sous-confiance chez.
Et il m'avait expliqué ça. Je me souviens très bien du contexte. La première fois que j'ai discuté avec cet homme-là, c'était après la séance de tir au but de France-Italie à la Coupe du Monde 98, où il m'avait dit, parce qu'il avait testé lui jeune à Clairefontaine et Thierry Henry et David Trezeguet. Et qui m'avait dit, j'avais peu de doutes sur leur capacité dans ce moment-là à répondre tel qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire à marquer leur tir au but. Voilà. Ça tombe pas du ciel, la performance.
Bien sûr, bien sûr. Tiens, puisque tu parles de Peno, autre interview.
Et je salue Jacques Revoisier, paix à son âme.
Et on parlera des JO dans quelques secondes.
Du jour, c'est interview de Willy Sagnol, qu'il faut féliciter encore pour sa magnifique performance. Bravo, Willy.
Pour l'Euro avec la Géorgie.
Il viendra dans l'after bientôt nous raconter cette formidable aventure. Dans son interview, il dit, puisque ça s'est terminé au Peno. Oui, ça faisait une semaine qu'on les travaillait, les Peno. C'est un geste technique, c'est important de les bosser.
Ah.
Et on lui dit, mais vous dites ça parce qu'en France, ça a été un débat récemment. Il fait, non, mais je suis un peu loin, j'ai pas du tout suivi. Pourquoi? Donc il savait pas. Ouais. Il savait pas qu'on avait
Daniel, il savait pas. Il peut dire qu'il savait pas, mais j'y crois pas une seconde qu'il savait pas.
Bon. Bref,
je pense pas que Willy Sagnol s'intéresse pas à l'actualité. C'est quand même un débat, c'est pas un débat secondaire, ça a nourri notre chronique. Écoute,
quand il viendra courant avril, il va venir.
Et qu'il veuille pas rentrer dans la polémique franco-française, ça, par contre, je peux le comprendre.
Ben, je lui demanderai, mais
il n'en a aucun intérêt.
Conséquence de toutes ces petites digressions, avis tranché, juste après une petite pause, Stéphane, concernant les JO. Je suis le chef d'orchestre, Jérôme.
On va faire une pause.
On a une pub de retard.
Tu croques en douce sans les pubs, quoi.
Moi,
tu croques en douce.
Ouais, je croque, ouais.
Tu fais passer des pages pubs.
C'est un peu comme les contrôleurs SNCF qui croquent sur les amendes.
C'est rien.
C'est ça récemment.
Il est 23h30. On fait ça entre nous. On fait 33 chacun.
Voilà, la page de pub qui vient. Tous les uns, c'est pour nous.
Voilà, celle-là, c'est cadeau. Elle est très courte et on se retrouve dans un instant avec Daniel.
Pas trop courte alors si elle est pour nous.
Et on parle des JO. 8 minutes, ça va. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy, je vous donnerai le petit billet bien sûr en sortant de l'émission. On est en direct jusqu'à minuit. Dans
on est bien,
instants.
Là on est beaucoup mieux qu'en la pub maintenant.
Ah, t'as vu?
Ah oui, franchement. Voilà.
Tu pourras t'acheter combien de pulls Saint-James. Il y a le S à la fin, et puis moi, comme je suis bilingue, tout de suite j'ai envie de traduire en anglais. Yoann Lemaire avec nous dans quelques minutes pour décrypter la campagne de lutte contre les discriminations.
On parle des JO, Paul, c'est une heure que t'annonces le truc.
Et on en, si vous arrêtez de faire
c'est
des digressions pour parler.
Mais là,
ça dépend plus que de vous.
On a à peu près une demi-heure de retard sur cet avis, quand
ça
même.
Ça dépend plus que de vous, maintenant.
Vas-y, lance-le, allez.
Écoutons Stéphane Guy.
Il y a deux soucis dans la vie, c'est la surconfiance et la sous-confiance.
Et on n'en reparle plus, on va tout de suite sur les JO. Vas-y, Stéphane.
Alors, je voulais vous parler d'un ami. Non, on en a déjà parlé hier soir, mais moi, ce que je voudrais peut-être, suite aux déclarations multiples de la journée, c'est déplacer le débat des entraîneurs vers les présidents. Voilà, il faut peut-être à un moment donné que les dirigeants assument leur responsabilité de dirigeants dans ce pays, notamment les dirigeants de la Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Professionnel, et puis on peut même y associer la ministre des Sports. Parce que tous ces gens-là sont toujours capables de se tourner vers l'État quand il s'agit de demander ci ou ça, encore plus récemment de demander un coup de main dans le délicat traitement du dossier des droits télé. Donc ils ont des devoirs, ils ont des droits, et je pense que l'équipe de France Olympique, c'est évidemment, c'est un intérêt supérieur pour la nation en ce moment. C'est un devoir national que de constituer la meilleure équipe possible. Et il serait peut-être temps que les dirigeants de nos instances fassent une conférence de presse commune avec Amélie Oudéa-Castéra en disant maintenant on arrête de jouer. C'est-à-dire que tous les clubs français, alors évidemment on peut pas forcer les clubs étrangers, mais au moins que les clubs français jouent pleinement le jeu de ces Jeux Olympiques et que ce soit pas au bon vouloir des uns et des autres en fonction du calendrier de je sais pas quoi, du préliminaire de truc, voilà. Donc c'est ça le vœu que j'ai formulé, et je trouve encore une fois étonnant que nos grands dirigeants soient d'un silence troublant dans ce moment-là, et qu'on jette au feu Florian Maurice ici, Pierre Sage là, etc. Ça me semble dépasser le niveau de compétence de ces gens-là, ou le niveau pas de compétence mais de responsabilité plutôt de ces gens-là.
32-16, si vous voulez venir réagir, si vous êtes d'accord ou pas avec Stéphane. Daniel,
moi je pense que dans cette histoire on a fait n'importe quoi depuis le début, parce qu'il y a eu l'enflammade JO qui a donné lieu à peu près tous les fantasmes. C'est-à-dire qu'on a pris, nous tous, hein, on s'est mis dedans nous aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de qui pourrait être les trois hors 23, quelle pourrait être l'équipe pour les JO. Tout le monde a fantasmé sur quelle équipe, sur le comment, sur le pourquoi. Il y a eu première alerte du « vous êtes en train de raconter n'importe quoi ». C'est quand Florentino Pérez a dit, enfin les enfants vont peut-être se calmer juste deux secondes. Je vais payer une fortune un joueur et j'en ai plein qui seraient susceptibles d'aller poursuivre le délire JO. On va vite se calmer. Il y a personne qui bougera parce qu'il y a reprise du championnat. Il y a ceci cela. Je voudrais pas qu'un mec ne fasse pas la préparation, aille se blesser, ceci cela. Ça a été la première alerte pour nous dire arrêtez de délirer, de fantasmer, de raconter n'importe quoi. Les clubs ont quand même leur mot à dire dans cette histoire.
C'est la première fois que j'entends l'argument de Stéphane et je trouve que c'est le plus intelligent de tous les arguments que j'ai entendus pour convaincre des gens de libérer des joueurs pour aller faire les JO. Sauf que ça peut pas se faire de façon déraisonnée. C'est que oui, j'aime bien ton argument et je ne l'avais pas entendu de dire après tout les clubs français profitent très souvent ou en tout cas récemment de l'État. On se souvient du PSG quand ils étaient bien dans la merde après le Covid, de l'intervention de Macron auprès du Qatar pour que le fric rentre par le biais des droits télé. Les JO sont en France, vous allez rendre un petit peu, libérer des joueurs et faites en sorte qu'on ait la meilleure équipe possible. Effectivement, cet argument, moi je l'avais pas encore entendu, je n'y avais même pas pensé. Je trouve que c'est nickel. Il faut juste, quand je dis que ça doit être raisonné, c'est que, et là tu seras d'accord avec moi, imagine, j'en sais rien moi, et c'est pour ça que je vais défendre Flo Mori, c'est que s'il passe par la tête de Thierry Henry de dire bah moi mec, moi chez toi je vais en prendre 5. Et puis à Lens il en prend 1 et puis à Lille il en prend pas. Bon bah c'est pas normal. Parce que Rennes il démarre la saison, il paye avec 5 joueurs en moins, imagine que t'en aies un qui se blesse, un joueur important, Bourigeaud. À la place de Flo Maurice ou du président de Rennes, je mets un câble. Je dis, attends, vous êtes bien gentil, mais moi, c'est ma saison qui est foutue avant même qu'elle ait commencé. Et c'est là où t'as raison. C'est que, en fait, il fallait organiser ce truc-là. Je sais pas s'il est trop tard pour le faire, je crois pas. Mais il faut l'organiser.
Ils avaient commencé à le faire.
Parce que tout le monde.
Il y a eu une réunion en octobre dernier des présidents autour de Diallo et de la
Tout le monde dit, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Mais attendez, faites un règlement simple, hein. Puisqu'on va pas forcer les entraîneurs étrangers.
Le scandale premier, et ça c'est le scandale du football circus dans son ensemble, c'est quand même que ce tournoi de foot ne soit pas d'Al FIFA. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable.
Ouais, mais les JO, mais bon, c'est pas FIFA, quoi. C'est pas FIFA, ça l'a jamais été.
Si, Daniel. Les JO, c'est la FIFA. C'est le tournoi de foot des JO, il est sous l'égide de la FIFA.
Tu veux dire par rapport aux dates où il est situé
Même, l'organisation, elle n'est pas comme toutes les fédérations sont associées aux Jeux Olympiques.
Les JO, ça n'a jamais été le foot, en fait, surtout. Il y a toujours eu le foot.
Donc, c'est quelle importance tu lui donnes? J'imagine que l'Italie, l'Allemagne vont relativiser l'importance qu'ils vont donner à ce tournoi. Et que si ça fait autant débat, c'est que comme c'est en France et que t'as envie, qu'il y a une course aux médailles, que t'as envie de briller, que t'as envie d'avoir tes meilleurs sportifs partout.
C'est un vrai enjeu. 84 pour nous, ça l'a été. Non, 92, les Espagnols sont champions olympiques de foot. C'était hyper important pour eux.
C'est bien si tu gagnes, mais l'enjeu,
les équipes africaines, leur première victoire internationale aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai commenté la victoire de l'Argentine en 2008 avec Messi.
Après l'Euro, ça viendra après plein de trucs. La médaille des JO, on s'en cague.
Non, je crois pas.
Mais comme c'est en surtout, France.
Moi, je vous pose une question, c'est que si on fait ce que souligne Stéphane, qu'on oblige, entre guillemets, enfin, que nos clubs libèrent les joueurs. Non, mais qu'est-ce qu'on va dire si début août, puisque le tournoi de foot va tomber en même temps que des barrages de Coupe d'Europe, notamment pour le 4e en Ligue des Champions et pour le 6e en Ligue Europa Conférence. Si Rennes, par exemple, fait son barrage de.
Il faut pas qu'ils aient drainé au JO.
Bah oui. Parce que simplement, s'ils sont au JO, que non seulement, bon, tu peux avoir la médaille, mais tu l'as pas avec derrière,
si t'as deux Rennais qui sont au JO et qu'il faut un tour préliminaire, c'est pas, enfin, des arguments
non,
complètement.
Le club joue sa saison sur un tour préliminaire, on a vu ce que ça a fait avec l'OM. Non, il faut être sérieux, il faut respecter tout le monde. Et comme tout le monde a des intérêts, c'est pour ça qu'il faut discuter bien en amont. Et tu dis, on saura, quelles sont les équipes qui peuvent être concernées par des barrages d'Europe. Les clubs français, on va partir sur une base de 2 joueurs par équipe. On va faire un petit peu attention, on va essayer de faire un mix, on va faire au mieux. Et effectivement, s'il y en a qui ont besoin, s'il y a le play-off comme l'OM l'a joué contre Panathinaikos et que ça concerne qui peut y avoir dedans Lens ou
Rennes, Lens, Lille
ou Lille et puis tu leur enlèves Lucas Chevalier
les Ligue Euro.
Merde quoi.
Bonne chance.
Si t'es le club, tu peux jouer à la Ligue des Champions avec tout ce que ça implique. Pardon, mais si on peut trouver une autre solution en ayant une équipe compétitive.
Ça me bouleverse pas, Daniel. C'est vraiment pas un argument pour moi recevable.
Je pense qu'il y a des moments
où t'as des.
Mais il n'y a pas de moment dans la vie d'un club, c'est fin.
C'est un peu le même débat qu'il y a eu. Malheureusement, on n'est pas allé au bout, on n'a pas gagné. Bon, c'est comme ça, c'est le sport. Mais l'équipe de France de rugby, à un moment donné, ils ont su, entre club et fédération, s'organiser pour qu'on ait.
C'est la Coupe du Monde, c'est pas les JO.
Les JO, il n'y a pas de culture.
Les JO 2024 en France, c'est un enjeu. Moi, oui, ça me fait kiffer. Moi, moi tu parlais là, de l'enflammade, de machin. Moi, je m'enflamme pour les JO 2024.
Parce que les JO sont en France. Ça serait ailleurs.
Non, je trouvais, j'ai développé en 2021 ici même. J'étais scandalisé qu'on n'ait pas une équipe compétitive à Tokyo. Je trouve ça lamentable qu'une fois tous les 4 ans,
je pense que ça doit déboucher. Moi, je pense que ça doit sortir d'un accord. Parce qu'encore une fois, je comprends parfaitement.
Mais là, c'est
que pour certains clubs, ce soit très emmerdant. Moi, pardon, je suis président de club. J'ai mon équipe qui doit faire le tour préliminaire de Ligue des Champions. Honnêtement, les JO, je m'en fous. Moi, pour mon club, la Ligue des Champions, c'est capital, c'est de l'argent, c'est valorisant, c'est mes entrées au stade. Tu peux pas. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé ton argument sur l'État aide et fait en sorte. Mais là, c'est des sommes qui sont colossales, la Ligue des Champions. S'il y a un tour préliminaire, moi, le club qui a le tour préliminaire de la Ligue des Champions, je dis, garde tes joueurs, les envoie pas aux JO.
Mais au-delà de l'argent, même pour le fameux coefficient UEFA dont on parle tant.
Pour tout. Donc, il y a des intérêts, c'est pour ça qu'il faut être intelligent, il faut réfléchir et ça t'empêche pas d'avoir une équipe compétitive pour les JO.
Soyons champions d'Europe,
c'est
déjà bien.
Quand tu vas regarder le panneau le avec toutes les équipes alignées, t'inquiète pas, tu vas pas avoir des équipes avec des cracks énormissimes. Je rappelais tout à l'heure dans Génération After, le Brésil en 2016, quand ils mettent une équipe machin, c'est juste parce qu'ils avaient pris une telle claque, ils avaient été tellement humiliés par leur Coupe du Monde 2014 qu'ils en avaient fait une affaire nationale.
Ils avaient jamais gagné les JO. Ils avaient jamais gagné les JO, d'ailleurs. Ils voulaient une affaire nationale.
Bah
oui.
Très bien.
Mais oui, mais nous aussi, on devrait en dire. Pour moi, c'est une affaire nationale. C'est un intérêt supérieur de la nation.
Non. Oui, mais tu peux pas bafouer les intérêts des clubs pour autant.
Peut-être pas toi, mais moi, c'est mon avis. Voilà.
Ouais.
On vous mettra pas
donc,
d'accord.
Donc, si toi, t'es président de club, tu envoies tes joueurs, tu balances la Ligue des Champions.
Bon, on va dans l'extrême.
Je pense que si
Lille est quatrième et que c'est pas Lucas Chevalier qui est dans les buts, mais le deuxième gardien de Lille, ce sera pas la fin du monde parce que si Lucas Chevalier, sans Jeux Olympiques, il se fait une contracture à la cuisse à 3 jours du match, il jouera pas le match. C'est la vie du foot.
Alors, c'est pas Lucas Chevalier, c'est le milieu de terrain qui, je sais pas, prend n'importe quelle équipe, c'est la star de l'équipe. Tu l'as pas pour un match aussi important. Non Stéphane, non.
C'est pas possible.
Les Rennais, imagine, ils font une remontée dingue en championnat, ils se retrouvent à être quatrième, ils font le barrage. Et tu leur enlèves.
Les Rennais, ils sont plus partis aujourd'hui pour être éventuellement sixième. Europa League.
On peut envisager une hypothèse. Donc, et ce serait quoi la limite alors à ta règle, à ton intérêt supérieur dans la nation?
Mais il y a pas de limite.
Henry, il veut 4 joueurs à Rennes, il prend 4 joueurs.
Oui.
Ah, c'est inadmissible. Alors là, pour le coup, ça, c'est inadmissible. D'ailleurs, en plus,
il le fera pas.
Non, mais d'ailleurs, c'est injuste par rapport aux autres équipes. Parce que tu handicapes une équipe dans son début de saison.
Oui, mais.
Non, ça, c'est injuste.
D'abord, je pense qu'il le fera pas.
Il faut au moins qu'il y ait une limite.
Il sera dans ta logique. C'est-à-dire que je pense que si tout le monde joue le jeu et est intelligent, le sélectionneur sera aussi. Et c'est pour ça que c'est au président de la fédération de prendre ça en main.
Oui, ça doit sortir d'un accord et d'une réflexion.
Si t'enlèves 2 joueurs à Lille, voilà, ça me choque pas.
Il est 23h45.
Donc avec une limite, 2, pas 3, et il faut voir avec les autres.
2, ou c'est 18, 18 plus 3.
Donc une discussion.
C'est 18 plus 3.
Dans un instant, notre invité, Yoann Lemaire, le patron de Foot Ensemble, qui bosse avec la Ligue pour les campagnes de lutte contre les discriminations. Première étape ce week-end, discrimination contre le racisme et l'antisémitisme avant l'homophobie lors de la dernière journée de Ligue 1, de Ligue 2. Vous écoutez RMC, c'est l'After avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy. Courte pause, et on se retrouve tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'être là avec Daniel Riolo, avec Stéphane Guy en direct sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after, @after-foot. Je vous lis également sur le direct studio, pendant Max qui met les soirs au Thibaut Nîmes l'after. J'espère qu'il va lancer un débat meilleur bar chocolaté ou qu'il va demander à Stéphane et Daniel de faire une imitation. Alors ça, c'est la libre antenne qui est de retour dimanche à minuit après PSGOM. Mais après, effectivement, si Daniel et Stéphane voulaient vous lancer sur vos talents d'imitateur,
sort de quoi? Moi, je suis nul en imitation.
Voilà. Non, mais c'est. Voilà,
toi, t'es bon, toi, tu sais faire qui?
Non, très, très mauvais en imitation également.
J'ai Nico Villas. Nico Villas, il est fort.
Exceptionnel.
Sauf qu'il est très fort, il a jamais réussi à me faire.
Mais pas grand monde te fait. Hein.
Je l'ai mis au défi, il arrive pas.
Ouais. Non.
Je suis assez dur à imiter.
Ouais. Étonnamment, il fait quelqu'un d'un peu énervé quand il tente de t'imiter, mais.
Oui, mais en fait, ça sonne pas, quoi. C'est pas un vrai énervement. Ça colle pas.
Non, ça colle pas. Et juste avant notre invité, vous dire que le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiennes ont battu Aken ce soir 3-0. Elles retrouveront Lyon en demi-finale. Donc, Cocorico, on aura un club français en finale de Ligue des Champions féminine cette année.
Voilà. Je crois que c'est Chelsea-Barça, l'autre demi-finale, si je ne me trompe pas. Chelsea, c'est sûr. Barça, c'était ce soir.
Absolument, c'est ça, totalement. Allez, c'est devenu une habitude chaque année. La Ligue met en œuvre une campagne de lutte contre les discriminations en Ligue 1 et Ligue 2. Et chaque année, des polémiques au moment de lutter contre l'homophobie. La saison dernière, 5 joueurs avaient refusé de porter le maillot floqué en arc-en-ciel. Et cette année, changement. Déjà, il y aura 2 journées. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme ce week-end et la lutte contre l'homophobie lors de la 34e et dernière journée. Et surtout, fini le maillot arc-en-ciel. Place à la place sur le maillot à un logo plus un badge qui seront déclinés en noir et blanc ce week-end contre le racisme et aux couleurs arc-en-ciel contre l'homophobie. Il y a beaucoup d'autres changements et pour en parler, on accueille le président de l'association Foot Ensemble qui travaille avec la LFP sur ces journées et surtout qui est au quotidien dans les clubs pour sensibiliser à la lutte contre l'homophobie. C'est Yoann Lemaire qui est là. Bonsoir Yoann.
Bonsoir.
Salut Yoann, ça va?
Bah, bonsoir Daniel et Stéphane, ben, ça va bien.
Donc on a, des donc Ardennes, on a plus le maillot arc-en-ciel, on a un patch maintenant, un badge quoi.
Un patch, ah, t'auras quand même un peu d'arc-en-ciel sur le logo de la LFP.
Sur le logo un peu d'arc-en-ciel, ça peut donner lieu à certains mecs qui veulent pas avoir un logo pareil. Hein.
Oui, ça va poser peut-être des problèmes.
Qu'est-ce que tu vas faire pour lutter contre ça, Yoann?
Oh bah il y a plus à ce niveau-là là un tout petit logo au bout du maillot si vraiment ça pose problème à des joueurs.
Ah bah, là je pense qu'on aura touché le fond. Pour une histoire de brassard ça posait des problèmes hein. C'était un tout petit tissu pareil.
Mais malheureusement on s'y attend et on espère que non. Alors il y a un gros travail qui est fait dans les clubs avec l'UNFP, la LFP, les associations, les clubs. Voilà,
de pédagogie, de sensibilisation. Vous faites beaucoup de travail auprès des jeunes surtout.
Mais beaucoup dans les centres de formation jusqu'aux joueurs pro. Mmh. C'est pour ça qu'il y a une modification. Alors ce week-end, c'est la lutte contre le racisme, parce que c'est vrai, les joueurs se plaignaient beaucoup, que ce soit les pros ou les plus jeunes dans les centres de formation. Ils avaient tendance à dire, voilà, vous faites que pour l'homophobie, c'est le lobbying, c'est la promotion de l'homosexualité, on devient une sorte de panneau publicitaire pour l'homosexualité, et vous faites rien pour le racisme.
Quand même, ça allait loin comme remarque, parce que ça n'a jamais été ça, en fait, ça n'a jamais été la promo d'eux.
Ah bah non, c'est bah non, contre, mais...
C'est ça, t'as eu beaucoup de remontées comme ça, dans ce que
mais
tu nous dis dans les clubs.
Beau l'expliquer, c'était dur à entendre, hein, Yoann.
Ouais, non, évidemment, il y avait beaucoup de retours assez pénibles, compliqués. Alors parfois très bien argumenté, très intelligent, mais parfois inquiétant. Et j'avais le sentiment que parfois c'était de plus en plus inquiétant.
Qu'est-ce que tu entendais d'inquiétant par exemple?
Oh ben alors du positif. J'aime bien de commencer par le positif. Mais on y reviendra après si tu veux bien. Dans certains clubs, hein, qui une vraie volonté politique de lutter contre l'homophobie, mais de très inquiétant. Des joueurs clairement homophobes qui le revendiquent, qui le disent. Et puis moi, à la fin, quand je leur parle, je leur dis que je suis moi-même joueur de foot, amateur dans les Ardennes, et homo, un des premiers joueurs à en avoir parlé, certains joueurs me parlaient même plus. Ils tournaient la tête, ils décidaient de plus me parler.
Ah, alors
non,
on va couper. C'est politique tout ça, c'est ça? Non, Yoann Lemaire, on va le reconnecter.
Surtout qu'il doit nous raconter la super anecdote.
Hein. Ouais.
Mais perdons pas de temps, qu'il soit recoupé dès qu'il arrive, tu lui demandes de raconter.
Il est là.
Ah, Yoann.
Ça avait coupé, désolé. Ouais. Voilà, c'est certainement le réseau ardennais, vous m'excuserez.
Et donc, dans le dialogue que tu peux avoir avec les clubs et avec certains joueurs, je crois que tu as une anecdote qui est assez marquante à raconter, on me l'a racontée, elle est vraiment très intéressante. Discussion que tu as eue avec les joueurs.
Celle qui est plutôt positive ou négative?
Celle que moi on m'a relaté, elle est plutôt positive.
Ouais.
Celle qui est positive vraiment qui nous a fait réfléchir, c'était à Lyon, quand on a vraiment discuté sur la nécessité de s'engager contre l'homophobie, donc avec des joueurs comme Tolisso, avec Lacazette, vraiment des gens très au point sur la question. Et beaucoup d'échanges, par exemple aussi avec Ryan Cherki, qui posait beaucoup de questions. Pourquoi lutter contre l'homophobie? C'est quoi l'homophobie? Explique-nous, etc. Donc c'était assez agréable. Puis à un moment, il m'a dit quelque chose de fort qui m'a vraiment plu. Il m'a dit, moi je suis OK pour lutter contre l'homophobie avec mon maillot, montrer l'exemple aux jeunes. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que vous pouvez faire la même chose pour le racisme? Parce que j'ai aussi envie d'aider des jeunes qui souffrent de racisme. Et là, je me suis retourné devant la LFP qui était là. Je lui ai dit, il a raison. Pourquoi il n'y a pas de maillot pour la lutte contre le racisme? Il y avait des dossards une fois dans l'année et la LFP a compris à ce moment-là qu'il fallait absolument, je pense, c'est vraiment un déclic, qu'il fallait absolument faire la même chose. Un maillot pour la lutte contre le racisme et quelques semaines après, le même maillot sur la lutte contre l'homophobie. Pour essayer d'emmener tout le monde.
Tu trouves, Yoann, que l'évolution là, de cette saison, elle est positive, que c'est pas un pas en arrière?
On a le sentiment que c'est un pas en arrière. Moi aussi, j'ai eu mal au cœur. On s'est battu pour avoir ce maillot aux couleurs arc-en-ciel. Et là, on s'est presque battu pour l'arrêter parce que sur le terrain, c'était trop pénible. Tu as bien vu, les joueurs qui n'ont pas voulu porter ce maillot, évidemment, ça a posé plein de soucis. On parlait plus que de ça. Ça grandit pas la cause. Je préfère qu'il n'y ait pas de polémique, que les joueurs se sentent à l'aise avec le maillot et qu'il y ait un plus gros travail de fond dans les centres de formation, auprès des pros, auprès de l'UNFP aussi qui a un rôle, auprès des médias. Et ça, si les clubs ouvrent encore plus les portes et font un vrai travail auprès de leurs jeunes et auprès de leurs pros, ben je trouve qu'on aura tout gagné. On verra ça un an.
Bien sûr.
On verra ça dans un an.
En tout cas, voilà, discussion que tu racontes avec Cherki, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il est jeune, Cherki, il a fait montre d'intelligence dans le sens où il a dialogué avec toi et il a voulu savoir et t'as pu lui expliquer certainement que c'est pas pour promouvoir, que c'est pas pour dire c'est bien machin, que c'est juste lutter contre une discrimination.
Mais malgré tout,
et s'il l'a entendu, moi je trouve que c'est formidable.
Malgré tout, on enlève ce maillot. Il y a un côté, on veut éviter les histoires.
Il y a quand même le patch. Tu vois, mine de rien, il y aura ça. Moi aussi, j'étais très très fâché. Johan le sait que pour moi, j'avais pris ça comme un renoncement devant les polémiques. Mais comme je sais le travail qu'ils font sur le terrain, et quand ils me racontent une histoire comme ça, qu'ils parlent avec un jeune joueur comme Cherki, que le dialogue se crée, et que derrière, il y a quand même ce qui va être une sorte de macaron, un truc comme ça, quoi. Arc-en-ciel, si les joueurs le portent tous et qu'on n'a pas du tout de polémique cette année, eh bien, écoute, je serais plutôt satisfait quand même.
Ouais, puis on avait, par exemple, pour terminer l'anecdote avec Ryan Cherki, comme c'était vraiment plaisant, il nous a beaucoup posé de questions sur les insultes. On va se les dire, est-ce que ta pète c'est homophobe, toi? Est-ce que quand on se parle entre nous, qu'on se dit va te faire, je mets trois petits points, est-ce que c'est homophobe? Et pour faire suite à ce qu'il y avait eu avec Endoram, le joueur de Metz, qui avait dit.
Ah bah alors, on l'a reperdu.
Ouais.
C'est débat, finalement, sur ces insultes-là aussi, débat qu'on peut avoir, parce qu'on en parle, tu sais, comme dans les stades, quand certains supporters lancent des chants.
La vérité, il y a un combat qui est essentiel, les luttes contre les discriminations, racisme, antisémitisme, homophobie, ok. Je pense que le reste, tu vois, c'est moins. Je sais que pour certains c'est capital. Je l'entends. J'ai fait des réunions sur ces thèmes-là. Bon, Johan, il a fréquenté des stades, il joue au foot depuis toujours. Je sais pas si lui personnellement ça le touche quand il entend certaines expressions populaires qui font référence à ça. Moi, je pense que c'est secondaire. C'est mon avis perso. Peut-être que je me trompe et que j'ai tort de dire ça. Et Johan, s'il le pense, qu'il me dise, t'as tort de dire ça. Mais je trouve qu'on a tellement de pas à faire, déjà, pour qu'on ait pas des mecs qui disent, je veux surtout pas d'un truc arc-en-ciel sur mon maillot. Le diable, Satan, va s'emparer de mon corps et tout. Je trouve que déjà, on doit déjà batailler là-dessus. Et si lui, il arrive à créer un dialogue avec des jeunes qui lui posent des questions, je trouve que c'est déjà tellement bien que, l'histoire des insultes dans les stades, et je veux surtout pas dire que c'est du folklore. Je l'ai dit pendant des années, j'ai bien compris qu'il faut sortir de certains trucs. Maintenant, de là à aller faire la police sur chaque phrase et tout, là, je ne sais pas ce que tu en penses, Johan. Dis-moi si je me trompe là-dessus.
Là où je suis assez d'accord, c'est qu'on fait aussi les supporters. Quand on va dans les clubs, on fait les joueurs, le président et son staff, et les supporters. Honnêtement, on a eu de belles surprises avec les supporters. Autant qu'on a des mauvaises avec les joueurs, souvent, on a vu la vraie homophobie dans le vestiaire, avec les religions, les traditions.
Mais ça, c'est fréquent. Vraiment, il y en a beaucoup qui sont clairement, ils veulent pas te parler, quoi.
Il y a quand même beaucoup de joueurs que ça pose problème, l'homosexualité. Beaucoup plus qu'on le pense.
C'est lié à la religion, on va pas se mentir.
On le sait.
La religion, les interprétations des religions. Nous, on arrive à un point.
C'est lié aux interprétations des religions, exactement.
Ouais, on arrive à un point où on est obligé de travailler avec des théologiens, des imams et tout ça pour être un peu plus au point. Parce que les mecs vous sortent des versets, ils les interprètent à leur façon. C'est n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu au point quand même pour arriver à échanger avec eux. Et contrairement aux supporters, où on a vu des groupes ultra ou des supporters ou plus familiales, eux, ils se disent pas homophobes. Alors, c'est vrai que dans les discussions, ils disent « Ah oui, des fois, on a des mots qui peuvent être homophobes, mais il y a le « mais », on le pense pas. » Alors, on va pas dire que c'est pas de l'homophobie, parce que ça en est, mais l'intention n'est pas la même.
Oui,
l'intention n'est pas pareille.
C'est vrai.
Et ça, c'est important entre... Ben voilà, j'ai insulté Turpin de PD. Évidemment que c'est de
pourquoi
l'homophobie.
Pourquoi Turpin?
Ben, je l'aime bien en plus, il fait des actions avec nous sur la lutte contre l'homophobie. Non mais c'est vrai en plus, moi je l'aime beaucoup. Vous le taillez souvent, mais ça garde...
Ah non, je taille jamais Turpin.
Ce qui est très ouvert sur la question. Et en fait, bien sûr que c'est de l'homophobie, mais après les mecs, ils se disent, oui mais non, on a dit ça par habitude, etc. Je dis évidemment qu'il faut changer ça, mais je trouve beaucoup plus d'agressivité un joueur qui vous regarde droit dans les yeux, qui vous dit « moi je joue pas avec un PD, sort de question ». Il va me mater sous la douche, il va me regarder. Ma religion dit que l'homosexualité, c'est pas quelque chose de normal. La normalité, c'est un homme et une femme. Maintenant, s'il y a un PD dans l'équipe, il se barre. Mais quand on vous dit ça au bout de deux minutes, c'est compliqué.
Ça, il l'a vécu.
Ah oui, ça, il l'a vécu. Bien sûr. Ça, je veux dire qu'il a vécu.
Et ça, ils savent tous, hein, ils sont tous au courant, les clubs sont au courant. Là où il y a les problèmes, ils sont identifiés. La LFP, le NFP, tout le monde le sait. Il y a aussi des clubs qui marchent vachement bien. Je vois Montpellier, Lyon, ça se passe super bien. On a fait le Stade de Reims, le capitaine du Stade de Reims qui a pris la parole, Abdelhamid, qui a dit des choses formidables. Formidables. Il a parlé pourtant sur le
Stade. Abdelhamid, on est niveau quand même au-dessus. Hein.
Ah ben, c'est écoute, quand même un c'est gars, réjouissant.
Oui, ouais, mais c'est un type formidable.
Et malheureusement, il s'en va.
Et pourtant,
un gars qui a un peu plus de niveau quand même. Ouais.
Et puis de la maturité, du niveau, et il a été très clair, il a montré l'exemple, et ça c'est génial, tu vois. Mmh. Et puis à côté de ça, je suis tombé dans des autres clubs où le coach dit une grosse connerie, et puis tout le monde rigole, et on est mal barré, et puis tu bois le bouillon parce que c'est difficile.
C'est un sujet qui est clivant. Chapeau de faire le travail de terrain que tu fais, hein, parce que c'est quand même c'est une mission, vraiment.
Ah ouais, vraiment, Johan, il est extraordinaire.
Johan Le Maire, le patron de Foot Ensemble.
Je t'ai dit que tu bossais la Ligue et tout, j'ai bien compris, mais UNFP, j'ai pas compris, c'est qui l'UNFP?
Alors, je bosse pas avec la Ligue, on est une association où c'est qu'on est partenaire.
Oui, non, mais je veux dire, la Ligue vous suit et tout. Alors, l'UNFP, j'ai pas trop
compris. C'est Paul Royer, il s'appelle Paul Royer, il s'occupe, je sais plus exactement de quoi.
Rassure-moi, c'est pas, il y a jamais des réunions, enfin, jamais il y a des trucs après 17h.
Non mais là c'est un jeune dynamique, Paul, il est super. Et il y a Franck Signorino, moi souvent, qui se déplace avec moi quand je fais le Nord.
Ah oui, Signorino.
Et à Lyon c'était Fluclinger de mémoire. Et vraiment des mecs bien, franchement des mecs bien.
Merci Johan.
Faut qu'on c'est important.
Ouais,
voilà.
L'UNFP, tant que tu les emmerdes pas après 17h, il n'y a pas de problème.
Merci d'être venu ce soir, Johan.
Merci à bientôt.
Journée de lutte contre les discriminations ce week-end et contre l'homophobie, la 34e journée de Ligue 1. Daniel, Stéphane, merci beaucoup.
À demain,
les gars.
Je serai là après le derby. Hein.
Ah, t'es là demain?
Ouais, après le derby. Ouais.
Excellent. Bon, on se retrouve demain. Après ce derby, le retour de la Ligue 1. Le Lille lance demain l'afterlife dès 20h. Ciao tout le monde. Merci à Jérôme, à Tim et à Max et Adrien du Standard. Ciao tout le monde.
RMC, l'after foot.